La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Comme à l'habitude, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque qui se joindra un petit peu plus tard à nous. J'ai sur notre panel aujourd'hui Yannick Patelli, évidemment, éditeur de La Vie agricole, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Michel.
Bonjour, Michel. Bonjour, les Michel.
Bonjour, oui. Et je vous laisse présenter nos invités au sujet d'aujourd'hui.
Oui. Alors, aujourd'hui, on a deux invités qui nous rejoignent dans le studio par téléphone. C'est Tyler McCain, que vous connaissez, qui est venu plusieurs fois aussi dans nos quotidiennes. Il est directeur de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires, l'ICPA, ou le CAPI, pour ceux qui préfèrent la version anglophone. Et nous avons aussi Margaret Zafiriou, chercheure pour le CAPI. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. On est content de vous avoir aujourd'hui parce que le sujet qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui, d'ailleurs on en parle dans l'édition du mois d'octobre de La Vie agricole, il y a un texte qui est signé par Margaret sur le zonage agricole. Et le zonage agricole, on va en parler avec Michel Saint-Pierre tout à l'heure, c'est un sujet très, très d'actualité actuellement, entre autres au Québec, et Michel me disait Ordon tout à l'heure aussi en Ontario. Mais dans un premier temps, on sait que les terres agricoles, ça constitue un atout assez vital et stratégique pour les pays, pour les provinces, et qu'il y a des politiques pour les protéger. C'est souvent un peu épineux, comme vous dites, Margaret, dans votre texte. Je voulais savoir, dans un premier temps, est-ce que c'est une constance historique? Est-ce qu'on a toujours craint pour nos terres? Ou est-ce que c'est tout d'un coup une crainte nouvelle?
Je pense que l'Institut Jean Garon, par exemple, avait des conférences sur ce sujet. Et on sait que c'est depuis 40 ans qu'on avait la Commission de protection de territoire du Québec. Alors, on sait qu'il y avait des pressions il y a 40 ans, mais maintenant, en ce moment, il semble qu'il y a de plus en plus de pression sur l'utilisation des terres et agricoles et on a peur avec l'étalement des villes et la population la démographie qui augmente, qu'il y a des pressions sur le territoire agricole autour des villes. Alors, on a vraiment, c'est plus urgent maintenant qu'on fait en changer, avoir les mécanismes pour faire des décisions sur l'utilisation de terres. Et je sais que le Québec fait des consultations en ce moment et on a vu l'Ontario avait des problèmes avec une décision que le premier ministre a fait. Alors, il a dû changer son décision à cause de la pression. Ouais. Alors,
Justement, vous dites, quand vous faites la référence à l'Institut Jean Garon et au ministre Jean Garon, qui a effectivement créé cette loi du zonage en 78. Oui. Donc, en fait, le Québec est resté assez stable dans sa protection du territoire agricole. D'après votre texte, est même devenu un peu un modèle ailleurs au Canada. Effectivement, actuellement, il y a une pression qui se fait, notamment depuis le gouvernement de la CAQ. En fait, on sent que, à la fois d'un côté, c'est un peu partagé, parce que d'un côté, on entend des ministres comme le ministre Fitzgibbon qui semble vouloir plutôt développer l'économie, donc plutôt dézoner. D'un autre côté, on a un ministre de l'Agriculture qui, lui, tient les cordons tient le harnais en disant non, il faut protéger les terres agricoles. Donc on est un petit peu dans un flou artistique actuellement au Québec par rapport à l'actualité, mais on ne sait pas comment ça va retomber effectivement après les évaluations. Mais est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on dit vrai quand on dit à travers le Canada, puis la question se posant à Margaret qu'à Tyler, à travers le Canada, le modèle a longtemps été un modèle?
Oui Yannick, la réalité c'est que le Québec est la province où on voit les protections les plus fortes. Le Colombie-Britannique a aussi des règlements qui protègent les terres agricoles, mais le Québec est vraiment la province qui a pris une approche plus systémique, a pris une approche à l'échelle de la province et est vraiment un modèle sur comment on devrait, quel système peuvent être utilisés. Ce qu'on voit dans les autres provinces, c'est que peut-être il y a des régions qui sont protégées, c'est le cas de l'Ontario, ou peut-être il n'y a effectivement aucune protection pour les terres agricoles. Puis je crois que nous sommes vraiment rendus à un point aujourd'hui où on devrait avoir des protections d'une forme ou une autre sur les terres agricoles qui sont vraiment un ressource, un enjeu stratégique pour le Canada.
Et Margaret, dans votre texte, finalement, vous l'avez évoqué tout à l'heure un peu, vous faites référence à Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui a changé de cap, puis qui a même dû se séparer de son ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Expliquez, il s'est passé quoi en Ontario exactement?
Oui, on n'a pas le même processus pour mécanisme. On n'a pas de transparence en faisant ces décisions. Et ça prenait seulement 3 semaines. Le ministère a rencontré des développeurs de territoire on a fait la décision sans beaucoup de consultations, sans savoir même qu'ils parlaient aux développeurs. Alors, je pense que le Québec, c'est un modèle parce que on a la commission qui est très transparent. Ça publie les décisions. C'est vrai que la loi est assez rigide. Et je pense que les consultations qui en ce moment, pour faire plus flexible pour faire d'autres considérations. Mais en Ontario, on n'avait pas de consultation d'après le fait. Alors, ça c'est pas très sage. Parce que, oui, on sait qu'on a besoin de mobilier. On a un vrai problème avec ça. Mais quand même, il faut, comme Tyler a dit, il faut protéger les terres agricoles, les terres sensibles pour l'environnement. Il faut les protéger. Alors, il faut consultation, il faut toutes ces considérations et il faut la transparence en faisant ces décisions. Parce que c'est très important.
Et l'Ontario est un bel exemple quand il n'y a pas de rempart entre le gouvernement et les développeurs. On a vu Queen's Park s'entremêler là, dans les discussions avec les développeurs. Ça a amené un ministre à être obligé de démissionner. Et la population en tant que telle a fortement réagi à la situation de vouloir modifier ses terres de la ceinture verte. Je ne sais pas, Michel, le rôle ici au Québec là, de la Commission du territoire agricole, je pense que c'est important. Là. C'est ça le rempart. Là.
Oui, c'est une loi, c'est une structure permanente qui existe depuis maintenant 45 ans et qui regarde les cas par cas, qui est bien sûr que le gouvernement a été, bon, à certains moments, 3-4 fois, a outrepassé. Et chaque fois, il se faisait un peu taper sur les doigts quand même, là, mais ils l'ont fait pour différents développements industriels. J'avais une question que j'aurais aimé justement clarifier. Quand on parle de Greenbelt ou de ceinture verte à Toronto et qu'on regarde, le terme est un peu fort parce que c'est plus des bandes de protégées. Est-ce que c'est ça, Tyler et Margaret?
Effectivement, oui. Effectivement, Michel, c'est une ceinture des terres. Il y a, même dans le Québec, il y a des exemples, des villes, il y a des régions, il y a des terres qui sont déjà développées, mais l'idée, c'est qu'en grande mesure, les terres dans le Green Belt sont protégées. Ils sont des terres agricoles et des terres boisées, des terrains boisés, mais elles sont largement protégées.
Mais tout à l'heure, à Ottawa, je pense que le terme ceinture s'applique probablement davantage que ce qu'on a pu voir comme avec les images pour la partie Toronto là, qui est en jeu, parce que celle qui est en jeu dans le débat récent et qui a fait en sorte que le ministre a dû démissionner puis que le premier ministre Ford a dû révéler un peu, c'était la région de Toronto qui était en cause à ce moment-là.
Oui, et c'est vrai que Comme nous avons dit, dans le cas du Québec, toutes les terres sont effectivement sont réglementées, elles ne sont pas toutes protégées. Mais dans le cas de l'Ontario, c'est une sélection des terres qui sont protégées.
Mais si je comprends bien, quand on regarde le Québec, on est souvent assez critique envers le Québec, c'est normal, on est dans la province de Québec, on essaie de voir le mieux pour le Québec. Est-ce que ça veut dire qu'on se plaint un peu le ventre plein au Québec quand on dit on dézone, alors que finalement, on aurait les meilleures barrières actuellement que le reste du Canada?
Je peux intervenir qu'on est plus sensible que les autres pour deux raisons. notre territoire agricole est beaucoup plus petit, que celui de l'Ontario. Et le territoire de bonnes terres agricoles est autour de la région de Montréal. La moitié de la population vit là, et donc la question d'étalement urbain ou les pressions permanentes existait déjà il y a 45 ans. Alors, vous imaginez ce que ça peut être aujourd'hui. Et l'économie aussi, en termes de pourcentage, c'est certainement 50 % et plus de l'économie qui se fait dans cette même région-là. Donc, on est dans un petit territoire agricole au potentiel très important, et c'est celui qui est le plus vulnérable.
T'sais. D'ailleurs, c'est pour ça, Margaret, que dans votre texte, je pense que vous soulignez le fait que le Québec réfléchit actuellement à surtaxer les terres qui restent en jachère, parce que finalement, c'est beau d'avoir des belles terres agricoles, mais il faut toujours bien les produire dessus.
Oui, oui, c'est ça. J'ai remarqué que quand le... Il y avait une commission qui étudiait, une commission parlementaire qui étudiait cette loi-là en 2015. Et on remarque qu'il y a beaucoup de spéculateurs qui tiennent le territoire agricole autour des villes et ne l'utilisent pas. Alors, c'est en friche. Et ça, c'est vraiment un gaspillage. Surtout s'il y a des jeunes fermiers, les jeunes qui voulaient devenir fermiers et voudraient bien cultiver la terre. Alors, c'est le gouvernement québécois qui a remarqué que peut-être un surtaxe sur ces territoires qui appartient aux spéculateurs qui sont en friche. Alors ça, c'est un moyen d'encourager la production agricole sur ces territoires agricoles autour des villes.
On a une amie, Nicolas Mesli, qui est un de nos collaborateurs occasionnels, qui a écrit un livre justement qui s'appelle « Terre d'asphalte » et qui fait référence au fait que le jardin de Montréal, c'était Ville de Laval, on l'appelle l'île Jésus, là, c'est moins utilisé maintenant, mais essentiellement le territoire de Ville de Laval était le jardin. Et aujourd'hui, il reste encore des morceaux, plusieurs spéculateurs ont... Le possède, ne l'exploite pas, attendent simplement qu'ils se disent que dans 20, 30 ans, peut-être, là, on va en avoir besoin pour faire du développement urbain.
C'est ça, des zones, puis on construira des condos, comme on voit souvent.
Mais c'est ça. Et c'est un peu toute l'histoire de ces terres-là, parce que quand je dis jardin, et quand j'étais petit gars, parce que je suis à Montréalais, moi, bien, on y allait, puis pas très, très loin, on traversait le pont Viau, puis on arrivait à la ville de Laval, et il y avait tout autour, pas très loin, Sainte-Dorothée en particulier, les terres étaient magnifiques. C'était là qu'on allait chercher nos légumes. Donc, vraiment, un jet de pierre de Montréal. Mais là, retournez-y à Sainte-Dorothée, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose.
Tyler, Margaret, aussi, dans le texte que le CAPI nous a fourni ce mois-ci, vous dites aussi, en fait, que au-delà de la production sur les terres agricoles, il y a aussi tout ce qui concerne le développement, les conditions socio-économiques, en fait, des communautés rurales. Donc, on comprend. D'ailleurs, ça fait partie, je pense, de la grande réflexion du ministre La Montagne actuellement, puisqu'il y a comme trois volets dans sa consultation. Là, je pense qu'on est arrivé à la consultation sur les activités territoriales, sur les productions, dans les territoriales, effectivement.
C'est le deuxième volet, oui.
Deuxième volet. Puis, il y aura la troisième volet sur les propriétés des terres. Ça, c'est une dimension qu'on oublie aussi un peu au-delà de la production. Et est-ce qu'ailleurs, au Canada, on a aussi cette réflexion justement sur l'occupation du territoire, sur les terres en dehors de la production agricole et sur à qui appartiennent nos terres?
Oui, la réponse répondait oui, mais je dirais que la réflexion qu'on est en train de voir est beaucoup plus tôt dans un processus de réflexion de ce qu'on voit au Québec. Certainement, les enjeux de qui sont les propriétaires deviennent très chauds des fois. On entend toujours des inquiétudes quand il y a un fonds d'investissement qui achète des terres ou quand il y a des inquiétudes autour des propriétaires étrangers. Mais dans les autres provinces, les règles, encore une fois, sont pas si claires, pas si avancées de ce qu'on voit au Québec. Et je dirais aussi que la question de l'occupation du territoire, je pense que c'est beaucoup plus avancé. La conscience de la nécessité d'avoir une occupation des territoires est beaucoup plus avancée au Québec que ce qu'on voit dans les autres provinces aussi.
Peut-être parce que l'enjeu est plus grand aussi, hein, Tyler?
Mais je pense que, honnêtement, Michel, je crois que c'est un enjeu culturel. Je pense que dans les autres régions, les gens sont j'irais plus loin, mais plus loin d'un côté mental de la réalité. Il se prend pour acquis le fait que les aliments sont disponibles dans les marchés. Ils ne sont pas vraiment conscients du fait que les régions rurales sont essentielles, mais il y a des défis.
Est-ce qu'ailleurs, pendant la pandémie, les débats ou les populations posaient des questions sur son approvisionnement alimentaire? Et ici, ça a été, surtout au début, là, en début 2020, c'était un sujet là, pour lequel on était souvent questionné. Notre garde-manger, est-ce que les réseaux d'approvisionnement vont être interrompus à cause des règles de la pandémie? Est-ce que ça a fait des vagues ailleurs?
Oui, et on a vu un plus grand intérêt dans les marchés locaux, mais ce qu'on a vu depuis ou pendant le dernier an, c'est que tout cet intérêt-là est en train de diminuer encore. Nous sommes en train vraiment de retourner à le statu quo. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui avec le débat au niveau politique fédéral sur les prix des aliments, c'est un débat ciblé autour des détaillants. Et en allemand, je pense que c'est un exemple du fait que les gens croient que les aliments, effectivement, viennent d'une épicerie. Ils oublient le fait que les prix qui sont payés à le détaillant sont un prix qui reflète toute la chaîne de valeur. Et je crois que c'est pareil avec l'occupation et l'utilisation des terres agricoles. Les gens ne sont pas conscients du fait que ces terres-là sont un élément essentiel d'une chaîne de valeur, d'une chaîne d'approvisionnement domestique qui est fort.
Puis alors, justement, ouais. Oui, justement, Tyler et Margaret, c'est à peu près le temps qui va nous rester pour aujourd'hui dans la quotidienne, mais ce que tu nous dis, Tyler, est intéressant parce que c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire, tu le sais, par les quotidiennes, d'informer en fait le public de l'état de l'agriculture au Québec et au Canada. Et maintenant, on monte aussi certains événements. J'espère que tu pourras te joindre à nous. Je pense que tu m'avais parlé peut-être du 4 novembre. On fait des activités au centre-ville de Québec le 14 octobre et le 4 novembre. Donc, le 4 novembre est devant nous. Il y aura une sorte de rencontres au centre-ville de Québec, qui est à la fois un marché du terroir, à la fois des stands d'information, où il y aura l'Institut Jean Garon, où il y aura les céréales du Québec, il y aura Première Moisson avec des boulangers, il y aura des animaux, etc. Et on fait ce travail-là, en fait, d'information pour essayer justement de faire le pont entre la ville et la campagne. On espère bien que le CAPI aura l'occasion de nous visiter le 4 novembre.
Comme Tyler vient de dire, pour montrer qu'il y a une chaîne de valeur dans tout ça, là, et que ça commence par la terre. Il y a des intrants, il y a des ingrédients, il y a des semences, il y a des coûts d'alimentation animale, il y a tout ça. Avant l'épicerie, il y a tout ça.
Excellent. Bien, merci beaucoup.
Merci.
Oui, très bien. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. À la prochaine.
Au revoir.
On fait une pause, on revient dans un instant. Écoutez la saison 2 de La vie agricole à MaTV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver MaTV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Moisson et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondu et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélil, le spécialiste de la nutrition des poules en ville. On est de retour à la quotidienne. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de Yannick Petelli, éditeur de la vie agricole, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Avant la pause, on parlait de la protection du territoire agricole, non seulement ici au Québec où on est en train de revoir des choses, mais également on a parlé un peu de ce qui se passe ailleurs au Canada, particulièrement en Ontario, où il y a des problématiques avec la ceinture verte. Puis ça va tellement loin même qu'il y a la Gendarmerie royale du Canada qui a lancé la semaine dernière, en début de semaine, mardi, au retour du congé de l'Action de grâce, une enquête sur ce qui s'est passé au gouvernement Ford sur le retrait de terre de cette fameuse ceinture verte.
Oui, mais ce qui m'a surpris, moi, dans le texte que Margaret Safiriou du CAPI nous a fourni, c'est ça. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. Ben, d'abord, j'étais surpris qu'un ministre démissionne suite à ça. Mais ce que je comprends de ce qu'elle nous explique, là, c'est qu'il y a vraiment une collusion, en fait, qu'il y avait quasiment entre le ministre et certains promoteurs.
Qu'on s'est rendu compte qu'on laissait aller certaines parties de la ceinture verte à des entrepreneurs qui pouvaient avoir des liens questionnables avec le bureau du ministre.
Ben oui.
Alors là, bon, c'est une certaine...
On peut rien affirmer, mais c'est ça la question.
Exact. Comme on dit souvent en politique, il doit y avoir, on le dit avec la justice, il doit y avoir justice ou apparence de justice. Ben, c'est la même chose pour un gouvernement. Lorsqu'on négocie pour des terres, comme les terres de la Ceinture verte en Ontario, qui sont des terres agricoles, mais aussi des terres forestières et des milieux humides, lorsqu'on négocie avec des entrepreneurs, il doit y avoir une apparence que tout a été fait dans les normes. Si vous avez des liens quelconques avec certains entrepreneurs, si vous ne les avez pas déclarés, même si la négociation était correcte, sans collusion ou quoi que ce soit, il reste que si vous n'avez pas déclaré ces liens-là, ben vous vous retrouvez dans une drôle de situation en bout de ligne.
Mais moi, ce qui m'a surpris beaucoup dans ce que nous a appris Margaret Safiriou, c'est au-delà qu'il y ait eu collusion ou pas collusion, ça on ne le sait pas,
ouais,
c'est le fait que finalement, on peut dégommer vite en Ontario. Ici, j'ai l'impression que, puis en fait, qu'on peut d'abord s'entendre rapidement pour dézoner, contrairement à ce qui peut se faire ici, parce qu'ici, il y a une grosse protection par la CPTAQ. Et en fait, comme je disais un petit peu dans l'entrevue tout à l'heure, je me disais, est-ce que finalement, au Québec, on veut revoir ça? Parce qu'on veut, d'un côté, assouplir les règles, c'est ce que je comprends du ministre Fitzgibbon. On veut, d'un autre côté, protéger les terres, c'est ce que nous dit M. Lamontagne. On n'est pas sûr que le gouvernement ait le même discours.
Vous allez avoir des développeurs qui vont vous dire qu'ils préféraient, comme en Ontario, pouvoir parler directement avec les ministres.
Mais probablement. Et probablement que la CAQ, première mouture avant qu'il soit élu, aurait été de cet esprit-là. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils en soient là. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait une aussi grosse différence entre les provinces. Donc, ça veut dire qu'au Québec, on a réellement une protection plus quand même.
Ah, tout à fait. On est à l'avant-garde. Il y a ailleurs les ceintures vertes, parce qu'il y en a plus qu'une. Il y a celle dont on parle qui a été, qui a fait l'objet de cette tentative d'appropriation-là, je pense. Il y a celle d'Ottawa qui existe et puis vraiment entoure un peu plus la ville. Et il y a en Colombie-Britannique où il y a...
Juste entre parenthèses, sur le site du gouvernement de l'Ontario, on parle d'à peu près 4 ou 5 secteurs. On dit la péninsule du Niagara, le marais Holland, le secteur du patrimoine naturel autour d'Ottawa. On désigne certains secteurs qui sont essentiellement une espèce de ligne qui part des Grands Lacs, qui passe au nord de la région de Toronto, qui s'en vont vers Ottawa, là, qui est vraiment un secteur là, dans le sud de la province.
Et qui sont des zones sensibles.
Exact.
Alors, sont des zones sensibles. Alors, l'autre, et j'allais dire que Colombie-Britannique a aussi une loi qui n'est pas aussi englobante que celle du Québec, mais qui protège des parties de son patrimoine agricole, son territoire agricole. Mais ailleurs, c'est pas un débat qui se faisait, là. Mais, comme je mentionnais, c'est aussi un facteur, une situation très particulière au niveau Québec, parce que notre zone agricole est la plus petite là, dans tout ça. Là. Toute proportion gardée, bien sûr. Là, je ne parle pas de l'île du Prince-Édouard, mais notre zone agricole est très petite par rapport à notre immense territoire.
Exact.
Et, dès qu'on s'éloigne un peu, la qualité des sols, là, selon la codification, diminue. Donc, on touche directement les sols les plus fertiles. La zone où les unités thermiques étaient les plus grandes également, et c'était celle-là qui était menacée au départ. Alors là, on a étendu le tout, mais on s'aperçoit bien qu'on parle un petit peu moins d'intrusion ou de pression qui existe, je sais pas moi, sur les hauteurs des rivières du Loup, qu'il y en a à Ville-de-Laval, c'est sûr.
Mais là, le défi est intéressant pour le gouvernement, parce que d'un côté, on nous vend l'électrification du Québec, avec l'avenue des batteries, l'avenue d'ailleurs de la compagnie suédoise
Northvolt,
qui va s'installer, qui va créer 3000 emplois, net de 7 milliards. On a eu tout ça qu'à rouler. En fait, tout le monde se dit, c'est bon, finalement, c'est pour l'électrification, c'est environnemental. Et d'un autre côté, moi, je lis la terre de chez nous qui nous dit le milieu agricole craint de perdre des terres au profit de la filière batterie. On est comme. Le gouvernement est un peu, sur un fil de fer, là, en fait.
C'est surtout que, ici, au Québec, si on compare, par exemple, à l'Ontario, l'administration est très uniformisée à partir de Québec. En Ontario, oui, le gouvernement Ford a son mot à dire sur la ceinture verte, mais même là, les règlements à l'intérieur de la ceinture verte vont jouer. Tout à l'heure, je vous parlais des grandes zones, mais chacune de ces grandes zones-là est subdivisée par les municipalités qui, eux aussi, vont rajouter leurs règles dessus. Ce qui fait qu'on a vraiment un mode de fonctionnement différent, qui fait que ça peut changer un petit peu d'un endroit à l'autre. Ici, c'est vraiment tout repose sur le gouvernement du Québec et les grandes lignes. Je dis pas que les municipalités n'ont absolument rien à dire, là, mais le gros du travail se fait là.
C'est le gouvernement du Québec et c'est la Commission de protection du territoire agricole qui a le mandat très, très clair, l'article numéro 1, de protéger les terres. Ils ont même tenté, le ministre a tenté de mettre le mot « mise en valeur » dans une récente révision de certains articles, mais on s'est aperçu que la commission n'a pas ce rôle-là. Le ministère a le rôle de mise en valeur. La commission, c'est de protéger.
Exact.
Et c'est ce qu'elle fait assez bien, je dirais. On parle souvent de certaines pertes d'espace, certaines autorisations qui ont été faites, mais dans l'ensemble, je pense que lorsqu'on a regardé il y a 4-5 ans, lorsqu'on a fait notre événement, on peut dire que les gens consultés, les gens qui connaissent ça, et ça c'était vrai également pour les gens de la communauté métropolitaine de Montréal, étaient relativement, étaient satisfaits du travail. Tout le monde aurait donné, je dirais, un bulletin de 9 sur 10 à la commission. Alors, c'était pas mal le consensus, je pense. Yannick, tu y étais.
Oui, on était, lorsqu'on 2019, juste avant la pandémie.
Nos rencontres, on s'apercevait que le travail a été bien fait. On parle toujours plus des petites affaires qui vont mal que de ce qui va bien, mais cette fois-ci, c'était quand même pour donner un bulletin. Mais on a quand même mis en lumière le fait que au-delà des grandes zones sud du Québec, le territoire est mal occupé. Il n'est pas occupé correctement. La mise en valeur n'est pas là.
Mais là, ce qui va être intéressant dans les mois qui s'en viennent, c'est effectivement, là, on doit être à veille d'avoir le fascicule sur l'occupation du territoire. Et on va avoir le fascicule, normalement, avant Noël, sur la propriété des terres agricoles. Donc, je pense que pour le premier semestre 2024, là, il y a des beaux sujets d'actualité à échanger.
Celui sur l'occupation du territoire, il est sorti.
Il est sorti.
Tout juste, tout récemment. Okay. Donc, on peut maintenant le consulter. J'ai commencé à le faire. C'est un... quand même...
C'est assez volumineux.
C'est assez volumineux. Là, ça ne se lit pas comme ça, là, en passant. Là. Et j'aimerais ça souvent dans des choses-là qu'il y ait une sorte de...
De résumé.
Résumé. Ouais.
Un glossaire. Hein.
Ouais, c'est quelque chose qui dirait qu'est-ce qu'on doit retenir de ça. Et... Jusqu'à présent, j'ai rien vu qui ressemblait à cette expression-là. Qu'est-ce qu'on devrait retenir du deuxième fascicule? J'aimerais ça le dire. J'aimerais ça le trouver exactement, là, mais...
Ou le créer.
Je vais être obligé de le lire au complet, c'est sûr.
Puis ça pourrait devenir un mandat de l'Institut Jean-Garon.
Ben oui.
Que retenir du deuxième fascicule?
Ben, je pense que oui.
Ça peut être quelque chose de nécessaire, effectivement.
On va y travailler. Ah oui,
effectivement. Ben voilà, ça complète cette émission d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Yannick, Michel, Izzy. Et on se dit à la prochaine.
À la prochaine.